Vous êtes sur RTL.
18h51, le kiosque de RTL Soir, Thomas Sauton.
Ah oui, l'actualité dénichée, racontée autrement, ça se passe tous les soirs avec vous, Catherine Boulet, avec vous, Christian Mélenchon, et avec vous, Julien Molcou. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir, Thomas.
On commence, Catherine, avec une première pour un chef cuisinier japonais. On en parlait hier, hein, le guide Michelin accorde 3 étoiles à Kei Kobayashi. C'est le chef du restaurant Kei des Halles. Racontez-nous comment c'est vu, comment on raconte tout ça au Japon.
Alors, ça n'arrive pas souvent, mais là, ce matin, ils ont perdu toute humilité, les Japonais. Il était encensé par la presse, à grands coups de superlatif. Kobayashi, c'est donc le triomphe du virtuose qui manie les saveurs, un quarantenaire flamboyant et précis qui rejoint l'élite, l'alchimiste du gnocchi qui sublime l'ordinaire.
Du gnocchi.
Ah oui, oui, on va le dire à la française. Moi, je mettais un peu d'attention japonaise. La presse salue également les défauts de ce japonais blond qui sait les reconnaître. Mon perfectionnisme peut me rendre difficile à vivre. Et tous journaux confondus, ils ont retenu cette petite phrase prononcée hier soir lors de son discours de remerciement au pavillon Gabriel à Paris.
Je suis fier, il y a beaucoup, beaucoup de Japonais en ce moment, mais vous avez accepté notre place. C'est ça qui, donc, je vous remercie beaucoup et merci de France.
Alors, vous avez entendu.
112, hein, Japonais en France, voilà, dans Michelin, je crois.
Vous avez entendu, il y a beaucoup de Japonais en ce moment, exactement. Il y a Takao Takano à Lyon, Masafumi Amamo en Bourgogne, Keigo Kimura à Dijon. Et. Eh bien, il y a eu 12 étoiles décernées effectivement à ces Japonais ces dernières années. 12, c'est bien la preuve que les chefs japonais ont secoué le Michelin et créé donc le Japan Times. Et entre les lignes, on comprend que les Français, ben, les champions du monde de la création culinaire, c'est du passé. Asahi Shimbun l'écrit d'ailleurs noir sur blanc, l'étoile de la domination française a pâli.
Oui, ça, ils sont contents quand même, en même temps ils ont raison.
Il y a un peu de mépris, un peu de dédain pour les Français. Ouais.
Et les Italiens aussi sont...
Les Italiens sont occupés à nous préparer des gnocchi.
Et ce chef en question, il a quand même rêvé en regardant un chef étoilé français
bien
à la
sûr,
télévision quand il était petit.
Se faire sacrer
et
en
il a
France.
Fait toute sa carrière en France.
On parle souvent de biocarburant pour les voitures, oui. Christian, mais pour les experts, la grande bataille devrait en réalité se jouer autour du biokérosène, oui. En clair, le carburant pour les avions.
Absolument, hein, c'est un des gros dossiers industriels du gouvernement français. Alors pour la voiture, vous le savez, les recherches, les investissements... La priorité, c'est bien sûr l'électrique ou l'hydrogène. En revanche, hein, cette affaire des biocarburants, c'est un sujet central pour le transport aérien, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein, sous l'impulsion du FlyScam, cette campagne de honte pour ceux qui utilisent l'avion qui a été lancée par Greta Thunberg, eh bien, ce mode de déplacement est de plus en plus mal vu. Donc les industries aéronautiques veulent innover.
Mais je croyais que le transport aérien, ça ne polluait pas tant que ça, Christian.
Eh bien, vous avez parfaitement raison.
Ah bon ?
Eh bien oui, simplement 2% du total des émissions mondiales de CO2. Alors c'est quand même pas lourd comparé à l'Internet. Une heure de mail dans le monde, c'est l'équivalent de 100 000 allers-retours Paris-New York, hein, quand même. Donc il faut voir la différence. Mais voilà, quand la défiance s'installe, les arguments techniques, eh bien ils pèsent beaucoup moins que les réponses emblématiques.
Mais moi je comprends pas, en fait. Il n'y a jamais de 100% bio.
Non, absolument pas. Il n'y a pas de... Et puis, c'est pas demain qu'on va faire un Paris-Tokyo pour aller ouvrir un resto... En avion électrique. Mais en recyclant les huiles et les graisses usagées, y compris celles donc de ces fameux restaurants 3 étoiles, mais aussi les algues, les carburants de synthèse, on peut faire beaucoup. Il faut savoir que dans le monde, aujourd'hui, les avions n'incorporent que 0,06% de biocarburant, alors qu'Airbus, par exemple, construit des appareils qui peuvent voler avec près de 50% de biokérosène. Vous voyez qu'il y a une marge énorme de progression. Donc la France a des atouts. Elle veut être chef de file de cette filière et on pourrait à court terme bâtir 5 raffineries spécialisées dans le pays.
Et ben voilà, on en apprend tous les soirs, c'est le principe du kiosque. Et maintenant, on va sortir, on va aller au cinéma pour aller voir Jojo Rabbit. C'est un film qui sort demain, Julia.
Oui. Alors c'est la guerre de 39-45 vue à travers les yeux d'un enfant. C'est l'atrocité, le nazisme, les jeunesses hitlériennes, Hitler lui-même, vu par un enfant qui prend le plus souvent, comme beaucoup des enfants, pour argent comptant, ce qu'on lui inculque, qui applique sans réfléchir, qui lève le bras pour saluer plus souvent qu'à son tour. Bref, c'est l'histoire d'un enfant extrêmement fier de son patriotisme. Ce petit garçon, c'est donc Jojo. Et Hitler, c'est carrément devenu son ami imaginaire. Alors, dans le film, il a l'air d'un grand dadais, puisqu'il est sous les traits du réalisateur du film, qui s'appelle Taika Waititi, qui est un néo-zélandais d'origine juive et maori. Du coup, ça lui donne un petit côté comme un hommage au dictateur de Charlie Chaplin.
Pauvre Jojo.
Ça va pas, petit homme?
Salut, Adolphe.
Tu veux me raconter l'incident du lapin? Il s'est passé quoi, au juste?
Bon, ça, on vous le racontera dans le film. Ouais.
C'est l'heure du lapin.
Mais vous voyez l'idée quand même. Salut Jojo, salut Adolphe, comme si c'était un petit pote. Alors, effectivement, le début du film est un peu clownesque. On a l'impression que tout a l'air génial au pays.
C'est un peu désarçonnant, ce que vous racontez.
C'est tout à fait désarçonnant, y compris quand on apprend à manier des grenades. Mais le petit Jojo va vite déchanter, notamment quand il va découvrir que sa maman, qu'il adore, et qui est interprétée par la sublime et génialissime Scarlett Johansson.
Ah bon, on l'adore aussi.
Voilà. Oui. Cache Elsa, une jeune fille juive, et elle la cache dans les combles de leur maison. Et à partir de là, le film twist et on ne s'interdit plus rien, y compris un petit anachronisme avec une version des Beatles en allemand. Blague à part, il faut un certain courage pour produire et réaliser ce genre de feel-good movie au pays des nazis. Et Jojo Rabbit n'est pas uniquement un film potage qui se moquerait sans fin des bourreaux nazis en les tournant en ridicule. La force de ce film, c'est sa façon d'alterner comédie et émotion. Et c'est pas un film pour enfants, même si ça en a certains codes.
Non, c'est vraiment, pas pour les gosses.
C'est pas pour les gosses.
Mais c'est le populisme pour les nuls.
Non, c'est plus intéressant que ça, parce que le populisme pour les nuls, ça serait un peu bâcler l'histoire et la raconter n'importe comment. C'est pas ça, c'est
pas ça.
Ça
vous a plu, en tout cas.
Ça m'a beaucoup plu. Et on comprend un truc, c'est que tous les enfants naissent empathiques. La haine, c'est les adultes qui la leur mettent dans le corps.
Ça s'appelle donc Jojo Rabbit, c'est un film qui sort demain. Et je vous rappelle que le livre de Catherine Boulet sortira bientôt. Il s'appellera comment ?
L'alchimiste du Gnocchi.
Merci à tous les...